Bonjour, je suis François Evé, jésuite, et aujourd'hui je viens vous parler, dans le cadre du parcours Éclat de Résurrection, de la résurrection de la chair. Dans le symbole de foi, dans le credo, nous confessons la résurrection de la chair. Avouons que ce n'est pas facile à comprendre. Résurrection, peut-être, oui, au sens un peu large ou symbolique du mot, mais pourquoi la chair est-elle associée? Pourquoi la chair doit-elle ressusciter? Ne serait-il pas plus simple de s'en tenir à la doctrine assez traditionnelle et peut-être plus facile à comprendre de l'immortalité de l'âme? Une doctrine qui dit que dans toute personne humaine, il y a un principe, l'âme, peut-être difficile à définir, mais en tout cas typique, fondamental, fondateur de l'humanité, un principe qui ne peut pas mourir, un principe qui n'est pas affecté par la mort. Ce que nous constatons, eh bien c'est assez banal, c'est que après la mort du corps, nous voyons le corps, la matière, la chair, se décomposer, il reste, nous savons, dans certains cas, au mieux, le squelette, tout le reste a disparu, s'est fondu dans la nature. Alors, est-ce que ça veut dire que la personne a totalement disparu, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement un principe qui reste, qui serait l'âme? Si l'on parle de résurrection, on parle bien sûr de mort. Rappelons-nous simplement cette phrase très importante de l'évangile de Jean. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » On n'accède pas à la vie sans passer par la mort. La résurrection n'est pas une vie indéfiniment prolongée. La résurrection ne nous dispense pas de faire l'expérience de la mort. Un peu comme dans le courant du transhumanisme qui pense trouver une vie indéfinie qui se prolongeait indéfiniment sans faire l'expérience de la mort. Or, le Christ lui-même a fait l'expérience de la mort. Et la phrase de l'évangile de Jean dit bien que justement, il n'y a pas d'accès à la vie sans passage par la mort. Et donc, la mort, effectivement, est une expérience humaine, bien sûr, inévitable, fondamentale. Or, le christianisme ose parler de résurrection de la chair. L'exemple évangélique bien connu, c'est la résurrection de Jésus. On l'a vu mourir sur la croix, mis au tombeau. Et puis, trois jours après, ou le troisième jour, il n'est plus dans le tombeau. Et en revanche, les disciples le rencontre, le reconnaissent, et même il va jusqu'à partager un poisson, comme dit l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, pardon, et avec eux, en tout cas, il se manifeste apparemment très, très concrètement à eux. Alors très concrètement, sous une forme quand même un peu particulière, puisque c'est un corps dans lequel on peut voir les blessures. Hein. Il invite Thomas à mettre la main dans ses blessures. On peut voir ses blessures, mais il traverse les murs, il disparaît devant les pèlerins d'Emmaüs, après la fraction du pain, il disparaît devant leurs yeux. Et puis il y a la scène de l'ascension, où là aussi, il monte au ciel, mais est-ce que c'est une sorte d'ascension physique, comme par un ballon, ou comme dit la finale du même évangile, il disparaît, simplement. Donc c'est l'insistance sur la dimension concrète et en même temps une matière un peu particulière. Alors, il n'y a pas de description commode de ce qu'est une chair ressuscitée, un corps ressuscité. Saint Paul prend l'image du grain, de la graine qui se transforme en plante. On voit une graine et puis on la met dans la terre. Alors évidemment, dans les connaissances de l'époque, on n'est pas trop d'idées du processus biologique, mais on voit une graine, on la met en terre, et puis quelque temps après, on voit une plante, quelque chose qui ne ressemble pas à la graine. Donc, il prend cette image pour dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, oui, d'une nouveauté, que le corps ressuscité, on pourrait parler de corps spirituel, si on veut, le corps ressuscité n'est pas du même type, c'est-à-dire physico-chimique, que le corps biologique que l'on connaît, en temps d'expérience habituelle. Ce que dit donc la résurrection, c'est qu'il y a, peut-être le premier point qu'on peut souligner fortement, c'est qu'il y a une transformation radicale. Oui, résurrection de la chair, si on veut, résurrection du corps, dimension concrète, mais au gré d'une transformation profonde. Le rapprochement que fait saint Paul lui aussi entre la résurrection et la création du monde comme quelque chose de radicalement nouveau est pertinent ici. Il y a effectivement dans la résurrection l'affirmation de quelque chose d'inouï, de quelque chose de radicalement nouveau. C'est un point important à souligner parce que on pourrait avoir le sentiment, et la mort, l'expérience de la mort nous le fait comprendre, que le cycle de la vie ne serait finalement qu'un éternel recommencement, que l'histoire du monde ne serait qu'un éternel recommencement. Rien de nouveau sous le soleil, comme dit le Kohelet, de manière un peu désabusée, c'est dans la Bible certes, mais enfin, il ne faut pas prendre ça au premier degré, c'est un peu l'expérience commune, l'éternel retour. Or, l'Évangile, et la Bible dans son ensemble, affirmant la résurrection, nous dit non, il n'y a pas d'éternel retour, il n'y a pas de perpétuel recommencement, il y a du nouveau, du radicalement nouveau, qui peut surgir dans le monde. Deuxième point, ce radicalement nouveau, encore une fois, n'est pas le passage à un autre ordre de réalité, le passage de l'ordre de la matière à l'ordre de l'esprit, au sens désincarné du terme. Mais cette transformation, elle a lieu dans la matière elle-même. Ce qui nous invite à prendre très au sérieux finalement la matière. Peut-être parler de résurrection de la chair, c'est dire que ce qui importe dans l'humanité et dans l'univers dans son ensemble, ce n'est pas justement ce principe immatériel qu'on peut appeler l'âme, et qui serait propre à l'humain, ou peut-être propre au vivant plus largement, mais c'est tout un ensemble, et que même si on peut parler effectivement de quelque chose en l'homme qui dépasse l'homme, qu'on appellera l'âme, c'est indissociable du corps, que le corps fait partie de la définition même de l'humanité, que la dimension matérielle fait partie de notre condition humaine. Parce que le dualisme entre l'âme et le corps a pu conduire à des formes, soit, assez curieusement dans l'histoire, soit d'ascèse excessive, au sens où le corps n'ayant plus aucune valeur, on peut le négliger complètement. Alors négliger le corps, ça peut être effectivement soit dans le sens d'une ascèse radicale, soit au contraire dans le sens d'une débauche non moins radicale. Puisque si le corps n'a aucune importance, après tout, on peut en faire ce qu'on veut. Or justement, le christianisme affirme par ce biais-là la grande valeur du corps, puisque le corps est susceptible de ressusciter. Et là, encore une fois, la matière, dans son ensemble, est aussi susceptible de ressusciter. Du reste, le corps, c'est aussi ce qui nous rend dépendants, interdépendants avec la matière, l'étoffe du monde, comme dit le philosophe Merleau-Ponty, la matière du cosmos, non seulement le monde vivant, mais le monde matériel. Nous sommes solidaires, par notre corps, nous sommes profondément solidaires de l'ensemble du monde vivant et de l'ensemble du cosmos. C'est pour ça que certains théologiens parlent, à propos du Christ, d'une incarnation profonde, pas simplement une incarnation dans une personne humaine, mais par le biais d'une personne humaine corporelle, une incarnation dans l'ensemble du cosmos.